Bonjour chers auditeurs, voici l'émission Visage de la Bible. Catherine Mann au micro pour vous proposer de feuilleter la Bible comme un album de famille, celui d'une grande famille spirituelle, où nous allons nous attarder sur quelques visages d'hommes et de femmes, en choisissant plutôt de mettre en lumière ceux qui ne sont pas très connus, mais qui méritent pourtant de l'être, ou en tout cas qui méritent que l'on s'y intéresse, car dans la Bible, tout a son importance. Continuons donc de tourner les pages bibliques et arrêtons-nous maintenant sur un visage célèbre, mais en fait assez peu connu, celui d'Isaac, le fils d'Abraham. Oui, celui-là même que ses parents ont eu dans leur grande vieillesse par l'intervention miraculeuse de Dieu. Sa mère avait 90 ans quand elle le mit au monde et son père avait 100 ans à sa naissance. De là lui vient d'ailleurs son nom d'Isaac, qui en hébreu signifie « il rit » ou « Dieu rit », comme s'il avait fait une bonne plaisanterie à ce couple âgé, et d'ailleurs à laquelle ils ne voulurent pas croire quand Dieu veut leur annoncer cette naissance, si longtemps espérée, mais qu'on n'attendait plus. Donc nous sommes là au chapitre 17 de la Genèse, et au verset 17 nous lisons « Abraham tomba sur sa face et il rit. Il se dit en lui-même, « Un enfant naîtrait-il à un homme de 100 ans ? Et Sarah, avec ses 90 ans, pourrait-elle encore enfanter ?» Et plus loin, selon la Genèse au chapitre 18, verset 12, c'est Sarah. Sarah se mit à rire en elle-même et se dit, « J'ai passé l'âge de connaître encore le plaisir, et mon époux est beaucoup trop vieux. » Et encore une fois, quand finalement Isaac vint au monde neuf mois plus tard, Sarah s'écrie encore, « Dieu m'a donné de quoi rire, et quiconque l'apprendra rira à mon sujet. Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des fils ?» Et j'ai donné un fils à sa vieillesse. » Voilà, après tous ces versets, on se rend compte que ce qui est certain, c'est qu'Isaac est né dans la joie et la bonne humeur. Mais c'est, comme on dit aujourd'hui, un enfant de vieux, donc probablement surprotégé et aimé jusqu'à la vénération. D'autant que sur lui repose une promesse particulière de Dieu. Nous lisons en Genèse 17, verset 19. Dieu dit, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Donc une alliance perpétuelle, c'est donc l'enfant chéri, le fils merveilleux qui est préparé pour un destin exceptionnel. Or, au milieu de cette enfance qu'on imagine particulièrement choyée, intervient comme un accident de parcours l'irruption de Dieu qui vient demander à Abraham de lui offrir en sacrifice ce fils tant aimé. Et la Genèse chapitre 22 nous présente cet événement comme une mise à l'épreuve d'Abraham. Mise à l'épreuve de quoi ? Je dirais qu'avant tout, c'est une façon de tester sa soumission à Dieu, sa capacité d'obéissance inconditionnelle et donc finalement la ferveur de sa foi. Abraham est-il capable d'aimer Dieu plus qu'il aime ce fils vénéré ? Et Abraham obéit à cet appel de Dieu et se met en route sans protester vers le lieu du sacrifice, accompagné de son fils. Mais Isaac, que nous dit le texte à son sujet à ce moment-là ? Peu de choses. Nous voyons qu'Abraham coupa du bois pour l'Holocauste. Et en Genèse 22, verset 6, il est écrit « Abraham prit les bûches pour l'Holocauste et en chargea son fils Isaac. » Ah, et les bûches, c'est lourd. Ceci nous montre qu'Isaac devait être déjà assez grand et fort pour pouvoir porter une telle charge en marchant. Ce n'était plus un petit enfant, mais sans doute déjà un adolescent. Donc, il a l'âge de réfléchir à ce qui se passe. D'ailleurs, il pose la question à son père. Genèse 22, verset 7. « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Question à laquelle Abraham préfère éviter de répondre. Il dit simplement d'un air évasif, « Dieu saura voir l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Et alors, quand ils sont arrivés au lieu prescrit pour le sacrifice, Isaac voit son père disposer des pierres pour en faire un autel, puis poser dessus le bois. Et Genèse 22, verset 9 dit simplement, « Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus des bûches. » Donc, on voit que ce garçon, assez fort pour porter les bûches, se laisse lier sans rien dire. Il se laisse faire sans réagir. Il ne se débat pas, il ne proteste pas, ne demande même pas à son père pourquoi il fait cela. Il obéit à son père. Alors, on s'émerveille toujours de la foi d'Abraham qui obéit à Dieu. Mais je trouve qu'on oublie souvent d'admirer aussi ici l'obéissance d'Isaac. Comment peut-on comprendre une telle docilité? Il fait tellement confiance à ce père aimant qu'il préfère se soumettre à une décision effrayante plutôt que d'imaginer que ce père pourrait avoir des intentions mauvaises et cruelles. On connaît bien la suite de cet épisode où Dieu revient pour arrêter le bras sacrificateur d'Abraham et fait finalement remplacer Isaac par un bélier. Et nous lisons en Genèse 22, verset 12, « L'ange du Seigneur l'appela du ciel et lui dit, « N'étends pas la main sur le garçon, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu as craint Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. » Et cela lui vaudra un renouvellement d'alliance, puisque la suite du chapitre 22, verset 16, « Parce que tu as fait cela, je m'engage à te bénir et à faire proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. » Donc tout finit bien pour Isaac, il reçoit en même temps son programme de vie, développer une famille nombreuse comme les étoiles du ciel. N'empêche que je reste un peu déçu du manque de reconnaissance que les textes nous montrent pour sa propre capacité d'obéissance. Car il fut un modèle de la parfaite relation père-fils telle que la tradition d'Israël l'établira ensuite. Surtout dans la loi de Moïse, on verra l'obéissance des fils au père est quelque chose... Surtout la désobéissance est punie, parfois par la mort. Donc, le modèle d'Isaac permettra plus tard de comprendre aussi la relation de Jésus à son Père du ciel. C'est la même chose, soumission, obéissance absolue, qui sont le fruit d'une relation de confiance et d'amour telle qu'on peut donner sa vie sans hésitation, étant sûr qu'au-delà de ce sacrifice, il y a toujours un horizon d'un amour encore plus grand, et que même la mort peut trouver un sens quand elle s'inscrit dans une telle espérance. Que nous montre encore le visage d'Isaac, fils d'Abraham et de Sarah? Car après être passé par la grande épreuve de sa ligature sur un autel en vue d'un sacrifice, il retrouve une vie encore magnifiée par une nouvelle promesse de Dieu, celle de donner la vie à une immense famille. Mais pour cela, il va donc d'abord devoir se marier. Et cela ne se fera pas tout de suite, c'est seulement à la mort de sa mère que l'urgence de trouver une épouse va se faire sentir. Or, Sarah meurt à l'âge de 127 ans. Et donc, si on calcule bien, Isaac a alors 37 ans et Abraham, forcément, 137 ans. C'est pourtant à Abraham que revient l'initiative de trouver une épouse à Isaac, parce qu'il y a un problème pour lui, que son clan demeure toujours sur une terre étrangère, en Canaan, et qu'il ne peut pas être question pour eux d'une alliance avec des Cananéens. Abraham a donc envoyé un serviteur vers le clan familial resté dans le pays d'origine, en territoire araméen. Il envoie chez son frère Nahor le serviteur pour en ramener une possible épouse. Alors, le serviteur va prier Dieu pour être bien inspiré, pour choisir là-bas une bonne épouse pour Isaac. Et là, donc, le serviteur va rencontrer Rebecca, fille de Bethuel, donc petite-fille de Nahor, frère d'Abraham, c'est-à-dire petite-nièce d'Abraham. Rebecca est aussi donc une petite cousine d'Isaac. Et comme cette rencontre s'est faite avec la bénédiction de Dieu, tout le monde tombe d'accord pour que Rebecca quitte sa maison et suive le serviteur d'Abraham pour aller épouser Isaac. Le père de Rebecca et Laban, son frère, dirent, lisons dans Genèse chapitre 24, verset 50, « C'est du Seigneur qu'est venue cette affaire. Nous n'avons rien à en dire, ni en bien, ni en mal. Rebecca est là, devant toi. Prends-la et va. Qu'elle soit la femme du fils de ton maître, comme le Seigneur l'a dit. » Voilà, tout le monde obéit à Dieu. La caravane du retour se met donc en route. Et il y eut ensuite une poétique rencontre entre les deux futurs mariés, que je vous lis donc, Genèse 24, versets 62 à 67. Au coucher du soleil, Isaac s'en revenait du puits de l'Aïroï. Il habitait alors donc dans cette région du Négev, et il était sorti se promener dans la campagne à la tombée du soir. Il leva les yeux et vit les chameaux qui arrivaient. Rebecca leva les yeux et vit Isaac. Elle sauta de chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme qui marche dans la campagne à notre rencontre ?»« C'est mon maître, » répondit-il. Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait, et Isaac la fit entrer dans sa tente. Il avait eu Sarah pour mère, il prit Rebecca et elle devint sa femme. Isaac l'aima, il fut réconforté après la mort de sa mère. Voilà, cet épisode du mariage d'Isaac montre la place centrale donnée à la femme dans la famille. C'est une énorme puissance affective autour de laquelle s'organise la vie. A-t-elle point que le fils reste attaché à sa mère tant qu'il ne lui a pas substitué une épouse aimée. Et il faut reconnaître que cet immense attachement mère-fils est devenu bien souvent une occasion de rire de nos jours, surtout quand il s'agit de caricaturer la mère juive, débordante de tendresse, nourrissante à l'excès, un rien sans gêne et surtout intrusive dans la vie de son fils. On voit donc que cette tradition vient de loin, de très très loin. Ainsi, Rebecca devient la remplaçante de Sarah, le nouveau pivot affectif de la vie d'Isaac, et va prendre à son tour la place si importante de matriarche. Et nous allons voir ensuite qu'elle va user très largement de son pouvoir. Rebecca eut du mal à avoir des enfants, il fallut de nouveau implorer Dieu pour qu'elle ne reste pas stérile. Et quand enfin elle devint enceinte, elle attendait des jumeaux. Lisons Genèse 25, versets 21 et suivants. Le Seigneur eut pitié d'Isaac, sa femme devint enceinte, mais ses fils se heurtaient en son sein. Rebecca s'écria, « S'il en est ainsi, à quoi suis-je bonne ?» Elle alla consulter le Seigneur, qui lui répondit, Deux nations sont dans ton sein. Deux peuples se détacheront de tes entrailles. L'un sera plus fort que l'autre, et le grand servira le petit. Des jumeaux se trouvaient dans son sein. Et quand fut accompli le temps où elle devait enfanter, le premier qui sortit était roux et tout velu comme une fourrure de bête. On l'appela Ésaü, le velu. Son frère sortit ensuite, la main agrippée au talon d'Ésaü. On l'appela donc Jacob, le talonneur. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Notons ici, entre parenthèses, qu'Abraham n'était pas encore mort, puisqu'il n'a encore que 160 ans à la naissance de ses petits-fils. Et il mourra seulement 15 ans plus tard. Cela est important parce qu'Isaac avait été désigné comme héritier d'Abraham. C'est pour cela qu'on parle de lui comme de son fils unique, alors qu'Abraham avait eu beaucoup d'enfants de plusieurs femmes. Mais on n'en parle pas parce que l'essentiel de la transmission familiale devait passer uniquement par Isaac, le fils unique et légitime. Et lui-même devait ensuite désigner un héritier parmi ses fils. Et la logique voulait donc qu'il s'agisse du fils aîné, Ésaü. Isaac avait d'ailleurs eu très rapidement une nette préférence pour ce fils aîné qui avait à ses yeux beaucoup de qualités. C'était, comme on dit, un costaud, un sportif, dirait-on aujourd'hui. C'était un excellent chasseur qui aimait ensuite cuisiner de bons plats de gibier pour son père, qui les adorait. Donc un bon vivant, une sorte de force de la nature. Mais Rebecca, elle, préférait Jacob, dont Genèse chapitre 25, verset 27 nous dit « Jacob, lui, était un enfant raisonnable qui habitait sous les tentes. » On imagine qu'il est donc plus fluet, plus délicat, en tout cas plus réfléchi et plus dans les jupes de sa mère. Il y avait donc une sorte de rivalité entre les deux fils, ce qui fit faire d'ailleurs un étonnant faux pas à l'aîné. Il faut savoir que son amour pour la chasse et les grandes courses dans la campagne l'ont un jour poussé jusqu'à l'épuisement, et ainsi, au retour d'une de ses expéditions, fatigué et affamé, il ne va pas hésiter à vendre son droit d'aînesse à son frère Jacob, qui le lui demande simplement en échange d'un repas. Une drôle de situation, mais en fait, Ésaü ne devait pas prendre tout cela très au sérieux. D'ailleurs, quand lui-même fut en âge de se marier, donc quand il eut 40 ans, il fit le choix de deux épouses hittites, des femmes du lieu, donc, c'est-à-dire des femmes étrangères du point de vue de la foi d'Abraham. Ce qui pose problème, hein. Genèse 26, verset 35 nous dit « Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca. » Mais pourtant, Isaac continue de préférer Ésaü. Continuons de nous intéresser à Isaac, fils d'Abraham, marié donc à Rebecca et père de jumeaux, très différents l'un de l'autre, Ésaü et Jacob. En principe, Ésaü avait cédé son droit d'aînesse à Jacob, son cadet, mais dans les faits, leur père Isaac n'avait visiblement pas été informé parce que quand il devint très vieux, il a perdu la vue et se prépare donc à sa mort peut-être prochaine et en tout cas à sa succession. Lisons Genèse chapitre 27, verset 2 et suivant. Il appela Ésaü son fils aîné et lui dit « Mon fils ». « Me voici, répondit-il. » Il reprit. « Tu vois que je suis devenu vieux et j'ignore le jour de ma mort. Il est temps. Emporte donc tes armes, ton carquois et ton arc et cours dans la campagne, chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un repas comme je l'aime, apporte-le-moi et je le mangerai pour ensuite te bénir avant de mourir. Alors il faut se rappeler que cette bénédiction est une sorte de cérémonie d'institution qui a une portée officielle et tout à fait irrévocable. Une fois cette bénédiction donnée, il n'est plus possible de revenir en arrière et le bénéficiaire devient l'unique héritier légitime du donateur. Si Jacob veut vraiment faire valoir qu'il a obtenu le droit d'aînesse par une petite transaction avec Ésaü, il devient urgent d'en informer Isaac. Mais ce n'est pas du tout ainsi que ça va se passer. Car c'est Rebecca, sa mère, qui va prendre les choses en main. Rappelons-nous que juste avant la naissance de ses fils, elle avait reçu une prophétie qui disait « Le grand servira le petit ». Et elle était bien décidée à intervenir pour que cette prophétie se réalise. Et pour cela, Rebecca ne voulait pas laisser faire Isaac parce qu'elle connaissait trop bien son attachement à Ésaü. Elle dit donc à Jacob, donc nous sommes en Genèse 27, verset 8, « Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va donc au troupeau, prends-y pour moi deux beaux chevreaux, et j'en préparerai pour ton père un repas comme il aime, tu l'apporteras à ton père, il mangera pour te bénir avant sa mort. » Voilà, donc une mystification soigneusement préparée. Il s'agit de prendre Ésaü de vitesse et de se substituer à lui pour intercepter la bénédiction d'Isaac avant qu'il ne revienne de la chasse. Le plan est clair, mais Jacob est réaliste. Il redoute d'être démasqué par son père et il objecte à sa mère, donc Genèse 27, verset 11, « Mon frère Ésaü est un homme velu, et moi, je n'ai pas de poils. Il est possible que mon père me touche et se rende compte de mon imposture. J'attirerai sur moi une malédiction et non une bénédiction. » Voilà, il n'a pas tort. C'est là alors qu'on se rend compte de l'absolue détermination de Rebecca qui lui répond « Vienne sur moi ta malédiction, mon fils. » Et elle va trouver des solutions. « Écoute-moi seulement. Alors, va me chercher ce que je t'ai dit. » Il alla puis rapporta à sa mère qui prépara donc un repas comme son père Isaac l'aimait. Rebecca prit ensuite des vêtements d'Ésaü, son aîné, les plus précieux qu'elle avait dans sa maison, et en revêtit Jacob. Et elle recouvrit de la peau des chevreaux ses mains et la partie lisse de son cou. Voilà, le déguisement est parfait. Alors Jacob décide qu'il peut s'approcher de son père en apportant le repas. Seulement, Isaac était aveugle, bien sûr, mais pas sourd. Et en entendant la voix de Jacob, il croit la reconnaître. Alors il interroge. Et il est aussi surpris, d'ailleurs, qu'Ésaü ait pu faire aussi vite pour aller chasser du gibier, être revenu et avoir déjà préparé un repas. Mais Jacob a des arguments. Isaac a donc des doutes et il demande finalement à toucher Ésaü pour pouvoir faire vraiment confiance. Et là, le subterfuge de Rebecca va fonctionner. Elle a réussi à mettre la fourrure sur les mains et le cou de Jacob. Et elle réussit aussi à tromper les mains de son mari, qui, touchant une peau velue, fait donc confiance à Jacob. Alors, après avoir bien mangé et bu du vin, Isaac dit, donc Genèse chapitre 27, verset 26, « Viens donc plus près et embrasse-moi, mon fils. » Il s'approcha et embrassa. Isaac huma l'odeur de ses vêtements et le bénit en disant, « Oh, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et du gras terroir, du froment et du vin nouveau en abondance. que des peuples te servent et que des populations viennent se prosterner devant toi. Sois chef pour tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. Voilà, donc trompé aussi par l'odeur des vêtements que Jacob avait vêtus, les vêtements d'Ésaü, la bénédiction d'Isaac est donnée à Jacob. Tout est scellé, il vient de le donner sans savoir à son fils cadet. C'est à ce moment-là qu'Ésaü revient de la chasse et gentiment prépare à son tour le repas attendu et l'apporte tout confiant à son père. Isaac est surpris, bouleversé. Le texte dit, verset 33, « Isaac fut saisi d'un tremblement extrêmement violent. » Il vient de comprendre qu'il a été trompé, qu'il a donné sa bénédiction à quelqu'un d'autre que son fils Ésaü. Il a compris que Jacob avait capté cette bénédiction qui est irréversible et que l'histoire familiale n'allait plus se dérouler comme il l'avait souhaité. Et Ésaü, un instant effondré, va vite surmonter sa désillusion pour entrer dans une colère noire. Il annonce à qui veut l'entendre qu'il se débarrassera de Jacob, qu'il le tuera dès qu'Isaac sera mort. Alors là, Rebecca prend conscience du danger et va conseiller à son fils Jacob de fuir et d'aller se réfugier dans la famille de son frère, donc l'oncle de Jacob, en attendant qu'Ésaü se calme, ce qui va prendre quelques années. De son côté, Isaac, qui subit et se plie à la réalité des événements, va en profiter, toujours sur les conseils de sa femme, un peu pressant d'ailleurs, pour organiser le mariage de Jacob avec une fille, justement, du clan de Bethuel, le père de Rebecca, parce que décidément, les épouses hittites d'Ésaü lui déplaisent toujours autant. Voici donc les paroles d'Isaac à son fils Jacob, cette fois, chapitre 28, verset 2. « Va en plaine d'Aram, à la maison de Bethuel, le père de ta mère, et prends là-bas une femme, une des filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu puissant te bénisse, qu'il te rende fécond et prolifique pour que tu deviennes une communauté de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance pour que tu possèdes le pays de tes migrations, le pays que Dieu a donné à Abraham. » Ainsi faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Isaac bénit son fils Jacob, cette fois en toute légitimité, et celui-ci part rejoindre la famille de sa mère en terre araméenne. Mais comment comprendre que l'immense destin qui attend Jacob, puisqu'il va devenir le père des 12 tribus d'Israël, il a trouvé son origine dans un conflit familial plus ou moins sordide, avouons-le. Isaac, devenu vieux, a littéralement été trahi par sa femme et son fils cadet, qui organise une sorte de captation de l'héritage spirituel. Ce pauvre homme fut désavoué dans son amour pour son fils aîné, dont le côté viril et un peu brut est presque moqué, en tout cas mis à mal par sa femme, qui ne cache pas sa préférence pour son fils Jacob, plus raffiné et subtil. Les deux frères vont donc devenir des ennemis, et on comprend bien pourquoi. Ils ne se réconcilieront que bien des années plus tard, juste à temps pour assister à la mort de leur père Isaac, qui mourra à l'âge de 180 ans. Et c'est ensemble, finalement, qu'Ésaü et Jacob vont enterrer leur père dans le caveau familial à Hébron, où, dit-on, Rebecca fut ensuite enterrée à ses côtés. Ce ne fut pas vraiment une famille modèle, mais elle fut quand même à la hauteur de la bénédiction de Dieu à Abraham. Voilà, ainsi s'achève notre moment d'attention au visage d'Isaac. Et à présent, je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à bientôt pour découvrir d'autres visages de la Bible.